Alors, je dois vous dire que je me sens moi-même privilégié d'être parmi vous, en vérité. C'est un privilège mutuel et de pouvoir prêcher, de pouvoir écouter. En fait, le vrai privilège, c'est d'appartenir au Seigneur, quoi. Et pour ceux qui appartiennent au Seigneur et donc qui deviennent disciples du Seigneur, ils vivent certains des éléments dont j'ai parlé juste un peu plus tôt ce matin. Les disciples 1.0 du premier siècle, c'était des personnes, donc pas ceux de Jésus, mais les disciples 1.0, c'était des personnes qui, en général, au premier siècle, et puis dans le monde juif et même au-delà, choisissaient elles-mêmes leur maître. C'est-à-dire que c'est pas un maître qui choisissait les disciples, c'était pas la pratique, c'était pas la culture. Les disciples, sur le marché des maîtres possibles, choisissait celui dont elle pensait pouvoir apprendre, mais aussi tirer un certain honneur. Et donc, les uns et les autres allaient être honorés, c'était un peu marchand. Ça, c'est les disciples 1.0. Les disciples 1.0 suivaient donc leur maître, l'écoutaient, et si à un moment donné, un meilleur maître se présentait, eh bien, ils suivaient un meilleur maître. Le disciple 1.5... Ce sont les disciples de Jésus au début, juste après qu'il les ait appelés. Mais c'est encore 1.5, c'est pas encore 2.0. C'est 1.5 parce que il y a déjà du changement. Les disciples de Jésus ne sont pas des personnes qui ont regardé un petit peu le marché de l'emploi ou le marché des maîtres. Ce sont des personnes qui ont été appelées par Jésus. Et la meilleure comparaison pour ces disciples-là, c'est un texte de l'Ancien Testament, c'est Élie, en train d'appeler Élisée. Très souvent, quand on lit des commentaires sur ce passage de l'appel des disciples dans Marc ou dans Matthieu, les commentateurs font allusion au prophète Élie dans l'Ancien Testament, dans 1 roi. Alors ça commence en 1 roi, chapitre 17, et ça va jusqu'au deuxième livre des rois, ou 1 règne, jusqu'au deuxième livre des règnes. Et là, Élie, le prophète, à un moment donné, reçoit de Dieu cet ordre d'aller transmettre son mandat à quelqu'un d'autre, Élisée, et il va vers Élisée, il jette son manteau sur Élisée, il ne demande pas à Élisée, bon écoute, dans un temps de prière, le Seigneur m'a convaincu que je devais te transmettre le ministère, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas ce genre de questions. Le manteau est jeté sur Élisée, et ensuite Élie part, il n'y a même pas le temps de la discussion. Élie part, il lui dit simplement, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Alors Élisée a compris. Élisée va voir ses parents, il leur dit au revoir, et ensuite, il entre dans ce ministère qu'il ne regrettera jamais d'avoir accepté. Alors on pourrait dire, avait-il vraiment le choix? Ben, qu'il a eu le choix ou qu'il ne l'ait pas eu, en tout cas, c'était la meilleure part. Donc, mais les disciples 1.5 sont des personnes que Jésus appelle. Aussitôt, ces personnes-là, alors il y a eu des rencontres, je l'ai dit ce matin, il y a eu des rencontres préparatrices, on pourrait dire. Mais au moment où il les appelle, tout le monde lâche, Pierre, André, son frère, et puis deux autres collaborateurs, Jean-Jacques, fils de Zébédée, et ils se mettent au service de Jésus. Ils n'ont pas le temps non plus de dire au revoir, quand on lit le texte, c'est aussitôt. Mais, ce matin, je me suis arrêté en fait au miracle, je trouve, le plus étonnant de Jésus dans le livre de Marc. Le miracle le plus étonnant dans le livre de Marc, c'est ce miracle d'une guérison d'une personne qui était malade, mais où Jésus opère la guérison, et quand il pose la question, est-ce que tu vois? Une personne qui était aveugle, est-ce que tu vois? La réponse qu'on entend à ce moment-là, produit une espèce de choc. Enfin, ça aurait produit un choc chez moi si j'étais disciple derrière Jésus et que je me rendais compte que mon Jésus, mon maître, qui avait fait tant de miracles, semblait avoir ici raté son coup. Alors, je dois vous dire encore une chose avant qu'on se plonge dans ce que je veux vous partager maintenant, c'est que la structure de Marc, elle est essentielle. La structure globale de l'évangile de Marc est essentielle. Elle n'est pas là juste parce qu'il fallait écrire. Elle n'est pas là juste pour être belle, mais elle est là pour montrer deux grands temps dans la vie de Jésus. Chapitre 1, verset 16, on pourrait commencer au verset 14, jusqu'au chapitre 8, verset 21, où Jésus multiplie les miracles. C'est un Jésus puissant, miracle après miracle, et tous les types de miracles, guérison, marche sur l'eau, délivrance, tout. Ce n'est pas le spécialiste de quelque chose, c'est celui qui opère toutes choses. Et puis ensuite, on a une deuxième partie, chapitre 10, chapitre 11, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 47. Et là, Jésus ne fait plus de miracles. C'est un Jésus qui ne fait plus de miracles, mais qui emprunte un chemin de souffrance, de patience volontaire. Et entre ces deux parties, donc dès le départ, par la structure même, Marc est en train de nous dire, ce Jésus si puissant est aussi ce Jésus qui a accepté de ne pas simplement vivre de cette puissance, mais de vivre en faisant la volonté du Père. Mais entre ces deux grandes parties-là, il y a toute une section qui est la section centrale dans l'évangile de Marc. Et elle se démarque bien. Pourquoi ? Parce que Marc, quand on observe toujours sa forme, on se rend compte qu'il aime bien mettre des récits en lien. Des fois, il fait des intercalations. Ne vous laissez pas fatiguer par les noms. Comprenez à quoi ça renvoie. Des fois, il fait des intercalations. Ça veut dire quoi ? Il commence une histoire, il n'en donne pas la fin. Il en commence une deuxième, et ensuite, quand il a fini la deuxième, il revient à la première histoire pour nous en donner la fin. Il n'est pas le seul à le faire, mais il est celui qui le fait le plus souvent. C'est typique de son style. C'est connu dans le monde du premier siècle. Cette manière de faire veut dire que lorsqu'on interprète la première histoire, il faut l'interpréter en lien avec la deuxième. Donc quand vous tombez sur ce genre de passage-là chez Marc, au moment où vous voyez qu'une histoire a commencé et qu'avant de nous donner la fin, Marc est passé à une autre histoire et qu'il revient nous donner la fin de la première histoire, c'est un signal. Ça veut dire les deux histoires se lisent ensemble. Fille de Jaïrus, sur le point de mourir, femme avec une hémorragie, fille de Jaïrus. Les deux doivent se lire ensemble. Il a une autre manière de lier les récits. Je vous dis ça pour arriver à ça là. Il a une autre manière de lier les récits. Cette manière de lier les récits, c'est de faire des parallèles. Je prends un exemple que je ne vais pas développer. Mais regardez-le à la maison, il est vraiment intéressant. Nous sommes au chapitre 6 et on va jusqu'au chapitre 8 de Marc. Chapitre 6 de Marc, on a une multiplication des pains. Chapitre 8, on a une multiplication des pains. Ensuite, après la première multiplication des pains, une guérison, même des guérisons. Avant la dernière multiplication de pains, la deuxième, des guérisons, une guérison, un zoom sur une guérison. Première multiplication, guérison. Ensuite, on a un dialogue entre Jésus et les chefs religieux. Dernière multiplication, la deuxième, une guérison avec un zoom pour montrer, non pas Jésus guérissait tout le temps, mais cette fois-ci un zoom pour qu'on voit comment ça se passait avec les gens, la partie relationnelle. Et puis juste avant, dialogue de Jésus avec une femme non-juive, une syrophénicienne de la région de la fameuse Jézabel dans l'Ancien Testament, une femme qui est impure, dont la fille est possédée par un démon, un esprit dont Marc dit qu'il est impur, enfin c'est l'impureté même. Et dans cette structure-là, vous verrez, en prenant le temps, on n'est pas pressé quand on lit, vous verrez que toute la première partie, multiplication de pain, guérison, dialogue avec les chefs religieux, ça a lieu en terre juive. Toute la deuxième partie, multiplication des pains, guérison, dialogue avec la syrophénicienne, ça a lieu en terre païenne, non juive. Mais que le Jésus ému de compassion en terre juive, et le Jésus ému de compassion en terre non juive. Que les chefs religieux qui sont toujours préoccupés du pur et qui ne veulent pas toucher à l'impur semblent être finalement moins purs de cœur que la femme syrophénicienne dont tout le monde aurait dit qu'elle était impure. Et au cœur de tout ça, une leçon, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Donc tout ça, il faut le lire à nouveau, mais avec un nouveau critère, le cœur. Pas les apparences, pas les présupposés, pas les préjugés, pas la façon dont on est vu par les gens, mais le cœur. Ça, c'est une structure concentrique. On a des parallèles, on arrive au centre. Et puis, il y a enfin une dernière manière pour Marc de mettre plusieurs récits en lien les uns avec les autres, et c'est ce qu'on appelle une inclusion. Toutes ces structures-là, elles ne sont pas typiques de Marc, hein. On les trouve autre part dans la Bible, et on les trouve même en dehors du monde juif. Cette dernière manière pour Marc de mettre en lien toute une série de récits, c'est ce qu'on appelle une inclusion. Là encore, ce n'est pas tellement le terme qui est important, c'est ce à quoi il renvoie. Dans une inclusion, qu'est-ce qu'on a ? On a, par exemple, une phrase au début d'un passage ou d'une séquence, et la même phrase qui est répétée à un autre bout. Sauf qu'après, ce n'est pas comme la structure concentrique, on n'a pas tous les parallèles à l'intérieur. On a une phrase au début, une phrase à la fin. « Éternel notre Dieu, que ta gloire est majestueuse sur toute la terre. » Psaume 8. Comment il se termine ? Par la même phrase. Pourquoi est-ce qu'il commence par une phrase et se termine par la même ? Par tout ce qui sera, parce que tout ce qui sera en dedans, à l'intérieur, c'est l'explication de la gloire de Dieu majestueuse sur toute la terre. Donc tout ce qui est à l'intérieur est lu à la lumière des extrémités. Eh bien, quand on arrive dans la partie centrale de Marc, on a une inclusion. Chapitre 8, versets 22 jusqu'à 26, on a une guérison d'aveugle. Chapitre 10, versets 46 à 52, on a une guérison d'aveugle. Mais si on a, et ce sont les seuls de l'évangile de Marc, mais si on a une inclusion, alors c'est encore un signal d'alarme. La forme nous dit, regarde bien maintenant ce qui est à l'intérieur, parce que ce qui est à l'intérieur est lié à ces deux guérisons d'aveugle. Alors maintenant, je vais lire chacune des guérisons d'aveugle et je vais souligner quelques-uns des éléments qui se trouvent entre ces deux guérisons d'aveugle. Et je commence donc par la première, le miracle le plus étonnant, je trouve, de tout ce que Jésus a fait dans l'évangile de Marc. Nous sommes en Marc chapitre 8, je lis à partir du verset 22 et j'irai jusqu'au verset 26. Ils arrivent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains, en lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors il le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas au village. » Jusque-là. Je pense que vous m'accorderez que ce miracle est quand même étonnant. Dans tous les miracles que Jésus fait dans l'évangile de Marc et autre part, il s'y prend une fois et c'est bon. Il prie, la personne est guérie. Il touche, la personne voit. Il touche, la personne marche. Il dit quelque chose au loin et la chose arrive. Mais ici, on amène quelqu'un. On demande à Jésus de toucher la personne. Jésus fait des choses de plus en plus étonnantes. Il crache sur les yeux. Mais alors, s'il y a quelque chose de sale à faire, d'impur à faire, c'est bien de cracher, de mettre sa salive sur les yeux de quelqu'un. Dans le livre de Marc, où le pur et l'impur est tellement important pour les gens de son époque, pour le regard extérieur, ce qu'il fait là, c'est le moment où moi, en tant que disciple de Jésus, 1.5, je me dis, ça ne correspond pas à ce que moi, j'attends d'un maître. Là, c'est le moment où je dis, je l'aime bien, c'est cohérent ce qu'il dit, ça me touche, mais là, je dois prendre quelques distances. Je suis un disciple 1.5. J'ai vécu quelque chose de réel, mais je ne suis pas encore prêt à aller aussi loin que ça. Je veux bien mon Jésus, mais quand il va jusqu'où je veux qu'il aille. Alors j'attends de voir ce que le Seigneur fait, et là, voici que le Seigneur remet ses mains sur l'homme, et cette fois-ci, l'homme va voir, et c'est précisé distinctement. Alors là, certainement que j'aurais eu un soupir de soulagement. Pourquoi ? Non pas par compassion pour cet homme. C'est ça la vérité. Si j'étais là à cette époque-là, je ne suis pas certain que je me serais réjoui en me disant oh, « il voit ». Je pense que j'aurais eu un soupir de soulagement parce que je me serais dit, mais si jamais il n'avait pas vu, j'aurais vraiment eu honte. D'accord, ce Jésus, je le suis parce que j'ai vu quelque chose de vrai chez lui, mais dans certaines situations, suivre Jésus pourrait attirer sur moi une forme de honte. Et qui aime être dans une situation humiliante? Enfin, moi, je n'aime pas ça. J'ai beau savoir que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux, je prie quand même régulièrement pour que le Seigneur ne me mette pas dans une situation trop humiliante. Tout en sachant que ce serait pour mon bien s'il le faisait. Allons voir la deuxième guérison d'aveugle. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Donc vous voyez, la première guérison d'aveugle, elle est tout en haut. Ça, c'est la partie centrale. La deuxième guérison, elle termine cette séquence. Chapitre 10, verset 46, « Ils viennent à Jéricho. » Vous voyez, il y a du présent ici. J'en ai parlé ce matin plusieurs fois dans l'évangile de Marc, alors que les récits sont au passé, on a des verbes au présent. Quand les verbes sont au présent, c'est une on appelle ça le présent historique. C'est une indication qu'il faut être attentif à ce qui se joue là. « Ils viennent à Jéricho. » Comme il sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre en chemin. Jusque-là. Vous voyez les différences entre les deux récits? Elles sont très nombreuses, hein? Elles sont nombreuses. Non seulement c'est une guérison en un temps, autrement dit, Jésus n'a pas de difficulté à faire ce genre de guérison en un temps, donc c'est pas ça l'essentiel, finalement. C'est pas de se dire est-il capable ou pas capable. C'est pas ça, finalement, la vraie question. Jésus guérit cet homme qui, lui, n'est pas amené par des gens. Dans la première guérison, on amène un aveugle. Là, il y a un aveugle qui plus est mendiant. Il sait que Jésus passe, certainement qu'il a déjà entendu parler de la réputation de Jésus. Il sait, il est aveugle, mais il entend. Il doit bien entendre les foules qui approchent, le bruit des gens. C'était pas un cortège silencieux qui accompagnait Jésus. C'était des foules joyeuses, des foules curieuses. C'était du mouvement, du bruit. Donc, que ses yeux ne fonctionnent pas, c'est une chose, mais que le reste au moins fonctionne. Et donc, Jésus est là, il crie. Et alors que dans la première guérison, on amenait l'aveugle, ici, on essaie de l'empêcher. C'est dingue, cette histoire-là. L'évangile de Marc commence en disant, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur. » Préparer le chemin du Seigneur, c'était la mission de Jean le Baptiste, quand il criait « Repentez-vous », c'est-à-dire changez radicalement votre manière de voir les choses. C'est ce que ça veut dire, hein. Vous savez, je suis obligé de faire une petite parenthèse ici. Quand on a le mot « Repentez-vous », et moi, tous les versets que j'ai appris, à l'origine, je les ai appris dans une seconde 1910. C'était celle que j'avais, la version que j'avais, et tous mes versets, je les ai appris là. Et le mot que je trouvais, c'était « Repentez-vous ». Et je me souviens que les premières fois que j'ai lu les révisions, comme la Nouvelle Bible Second, la Bible Summer, j'étais pas très satisfait de cette histoire de changer, changer radicalement. Parce que moi, j'aimais le mot « repentez-vous ». Je trouvais qu'il avait quelque chose de fort. Mais en réalité, il avait quelque chose de fort selon ce que moi, je m'étais imaginé. Et d'ailleurs, pendant longtemps, quand je parlais de repentance, je mettais beaucoup l'accent sur le regret et la tristesse. Repentez-vous, regrettez votre conduite passée, soyez triste de comment vous avez vécu. Et puis ensuite, découvrez la joie d'avoir goûté que le Seigneur est bon, qu'il est vrai, qu'il est vivant. Mais en fait, la réalité, c'est que la meilleure traduction, c'est changer radicalement. C'est changer, Parce que le changement n'est pas juste un regret. Vous savez, on peut regretter quelque chose sans avoir rien changé. On peut regretter parce qu'on se dit, mince, je suis dans une impasse, je regrette. Mais on peut ensuite se mettre en chemin vers la même impasse. Vous voyez ? J'ai déjà vu ça, ça m'est déjà arrivé aussi. On regrette un choix parce qu'on arrive à une impasse. Et puis ensuite, on reprend le même chemin et on arrive à la même impasse. On peut regretter 1000 fois. Mais ici, il ne s'agit pas de regretter, il s'agit de changer. Et le mot utilisé parle d'un changement ici. Alors bien sûr, dans la pensée juive de l'époque, c'est ici, dans le cœur. Mais c'est parce que c'est dans le cœur, à cette époque-là, que tout se passe. L'intelligence, les émotions, la volonté, c'est dans le cœur. Pour nous, normalement, on dit que c'est dans la tête. Puisque nous avons une vision plus biologique des choses, le cerveau est là. Et même des fois, on fait une séparation. On réfléchit ici, on aime là. Changer radicalement. Je ferme cette parenthèse-là. Jean-Baptiste, donc, je reviens là où j'avais ouvert la parenthèse. Jean le Baptiste, donc, disait, changer radicalement. Préparer le chemin du Seigneur. Il y a un double message dans ce préparer. Il y a préparer vous-même, c'est-à-dire faites de la place dans votre vie pour que le Seigneur y vienne. Mais une fois que vous avez préparé le chemin pour votre vie, c'est préparer le chemin aussi pour les autres. Vous voyez, c'est pas un préparer égoïste et égocentrique, égocentré. Je pourrais dire, ah, le Seigneur m'a dit préparer le chemin, ben, Seigneur vient dans ma vie, j'ai préparé le chemin. Oui, mais c'est pas juste ça. Il y a plus beau que ça. Il y a plus fort que ça. Si le chemin a été préparé dans mon cœur, maintenant, moi, je deviens un moyen par lequel le chemin peut être préparé pour le cœur de quelqu'un d'autre. Or, quand on arrive à ce moment de l'évangile de Marc, il y a des personnes qui suivent Jésus et qui, au lieu de préparer le chemin par leur vie transformée, de ce qu'ils ont déjà compris, pour que d'autres s'approchent de Jésus, ils font barrière. C'est le comble quand même. Pourquoi est-ce que des personnes qui se sont approchées de Jésus et qui devraient contribuer à préparer le chemin du Seigneur en arrivent finalement à faire obstacle à la venue de Jésus ? C'est quand même dramatique. Mais que ce sont des personnes, tout simplement, qui ont accueilli un Jésus enfermé, emprisonné dans la petite boîte de leurs pensées, dans la petite boîte de leurs désirs, dans la petite boîte de leur manière de comprendre le Messie. Elle est tellement petite, cette boîte, la boîte de ce que nous pouvons penser et imaginer. Vous savez quoi, au premier siècle, qu'est-ce qu'on attendait ? Ben, si j'avais été juif de l'époque et que j'avais été sadducéen, ben j'aurais dit, je n'attends rien. Moi, tout ce qui m'intéresse en tant que sadducéen, c'est que le culte au temple continue. Vous comprenez que si j'étais sadducéen, que j'entendais Jésus dire, détruisez ce temple, je le relève en 3 jours, et que je croyais qu'il parlait du temple de Pierre, vous comprenez que moi, en tant que sadducéen, je lui aurais sauté dessus, hein. Parce que dans ma famille, puisqu'on était sadducéens de père en fils, ainsi de suite, de parents vers les enfants, c'était familial, héréditaire. Ben, dès mon plus jeune âge, j'aurais appris, tu sais Cédric, tout peut arriver sur terre, mais rien ne doit arriver au temple. Et là, Jésus arrive et il dit, détruisez. Quel changement d'intelligence il a fallu pour que des sadducéens, quelques-uns quand même, puissent se mettre à suivre Jésus. Je vous rappelle que Zacharie, le père de Jean le Baptiste, c'était un prêtre. Il était forcément sadducéen. Quel changement d'intelligence ! Tout ce qu'il avait appris, il devait le relire maintenant autrement. Si j'avais été zélote, je suis au premier siècle, je suis un zélote. C'est-à-dire que je suis une personne qui en a assez d'être sous la main de l'Empire romain. Si j'étais un zélote, j'aurais une compréhension des choses beaucoup plus politique que religieuse. Et mon espérance, ça aurait été qu'on soit enfin débarrassé de la main romaine. Ma vision des choses m'aurait amené à attendre, non pas un messie dans le sens de quelqu'un qui me donne une vie nouvelle, j'aurais attendu quelqu'un qui a de l'audace pour lancer la révolte. Et en tant que zélote, si on m'avait dit « on a trouvé le Christ », mais je serais allé le voir tout de suite pour lui dire quel est le plan. Où sont les armes? Petite boîte. Et si j'étais un Essénien, les gens de Qumran, si j'étais un Essénien, j'aurais dit, il y a un Messie? Il est où, le Messie? En dehors de notre communauté? Non, ce n'est pas le Messie. Non. Pourquoi? Parce que si j'étais Essénien, j'aurais fait comme tous les Esséniens. Je me serais dit, ce qui se passe en terre d'Israël n'est pas droit devant Dieu et je serais parti au désert. Vous savez pourquoi ils sont partis au désert, les gens de Qumran, les Esséniens, dans les différentes communautés esséniennes? Parce qu'ils lisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et ils lisaient le même passage que celui qui introduit l'évangile de Marc. Une voix crie dans le désert. Et quand ils ont lu les prophètes, ils se sont dit, ça parle de nous. Et ils sont partis dans ce désert pour être cette voix qui crie dans le désert et qui dit à ceux qui étaient restés dans la ville, ce que vous faites n'est pas droit. Ils se préparaient à la guerre sainte. Si j'étais avec eux, j'aurais attendu le Christ, mais un Christ qui corresponde à mes interprétations, qui corresponde à mon mode de vie. Un Christ qui ne me demande pas de changer. Je ne veux pas d'un Christ qui me demande de changer. Je veux un Christ qui corresponde à ma lecture des choses, ma vision des choses. Et si j'étais pharisien? Et si j'étais pharisien plutôt de l'école de Shammai ou plutôt de l'école de Hillel? Vous savez, quand on lit les Écritures, parfois on met tout le monde dans le même bloc. Mais c'est comme vous et moi, nous sommes nuancés. Si j'étais un pharisien de l'école de Hillel, je serais l'un de ces pharisiens plutôt souple, arrangeant. Les pharisiens de l'école de Hillel, c'était des pharisiens qui vivaient plutôt dans la diaspora. Ils n'étaient pas en terre d'Israël, ils étaient dans le reste de l'Empire. Et ils avaient des règles un peu plus souples. Et sur certains points, ce Jésus m'aurait plu. Lorsque Jésus dit « Aimez vos ennemis », j'aurais trouvé qu'il va un peu loin. Mais ça m'aurait plu. Si j'étais un disciple de Shammai, un pharisien de l'école de Shammai, plutôt école de type palestinienne à l'époque, de terre d'Israël, vous savez, Palestine c'est anachronique par rapport à l'époque. Et donc, là je me serais dit, ah non, sur ce point-là, aimez vos ennemis. Non. Si j'étais de l'école de Shammai, j'aurais dit non, il faut se purifier, il faut purifier le peuple, n'ayez aucune relation avec les ennemis. Parce que tous les non-israélites, les non-juifs, sont des ennemis. Chacun avait sa petite boîte. Et je dois dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, moi aussi, chacun d'entre nous, nous avons notre petite boîte dans laquelle nous enfermons un Jésus confortable. C'est-à-dire un Jésus qui correspond à ce dont on a besoin. Vous voyez, c'est ce que j'observe dans ma vie trop souvent et c'est ce que j'ai l'impression d'observer dans la vie de mes frères et sœurs que j'aime et qui sont de la même nature que moi. C'est qu'il est facile d'enfermer Jésus dans une petite boîte et que sur chacune de ses faces, je vois écrit simplement le besoin que j'ai. Un Jésus qui me donne de l'assurance. J'aime ce Jésus-là. Un Jésus qui me console. J'aime ce Jésus-là. Un Jésus qui me donne du discernement pour les affaires. J'aime ce Jésus-là. Un Jésus qui sait comment parler et me faire parler. Quand j'ouvre la bouche, j'aime ce Jésus-là. Une petite face avec les miracles quand même. Un Jésus qui fait des miracles. J'aime ce Jésus-là. Et puis ensuite, un Jésus qui me dit, oui mais Cédric, sois honnête. À quoi ton cœur est vraiment attaché? Alors là, je dirais non, toutes les faces sont prises. C'est pas que je veux pas, il y a plus de faces, toutes les faces de ma boîte sont prises. À quoi ton cœur est vraiment attaché? Alors ces personnes-là qui ont suivi Jésus et qui venaient de différents courants, certainement, comme Nicodème venait des pharisiens. Ces personnes-là qui ont suivi Jésus au fur et à mesure, au lieu d'être des ouvreurs de chemin, en étaient venus à fermer le chemin par leur attitude, par leur petite boîte, par leur manière d'enfermer Jésus dans une espèce de ghetto, ils en étaient venus à fermer le chemin au lieu de l'ouvrir. Mais cet homme-là de Marc chapitre 10 verset 46 à 52 n'a pas accepté les petites boîtes. Il a crié plus fort. Et la question importante que Jésus pose, parce que dans l'évangile de Marc, quand vous le relirez, parce que vous le relirez bien sûr, 16 chapitres, ça va vite. Quand vous le relirez, vous verrez que très souvent les questions de Jésus peuvent apparaître plusieurs fois, posées à différentes personnes. La question posée à Bartimée, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette question que Jésus pose à Bartimée, avant Bartimée, il l'a posée à d'autres. Cette même question, Jésus l'a posée à d'autres. Et j'y arrive dans pas longtemps. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je veux retrouver la vue. C'est quand même un mendiant. Je veux dire, s'il croit vraiment que Jésus est le Messie, il aurait pu demander plus quand même. On pourrait se dire que finalement, cet homme, il avait une petite vision. Il n'était pas très visionnaire quand même. Je veux dire, tu es là, tu as compris que celui qui passe, il fait des miracles, c'est le Messie, c'est le fils de David. C'est-à-dire celui qui va régner. Je veux dire, bien sûr, il amène un changement, mais si c'est un roi, je veux dire, dans la royauté, il y a quand même une dimension politique, qu'on le veuille ou pas, et économique. Donc il y a moyen d'avoir une autre situation sociale quand même. Il peut passer non seulement de mendiant à aveugle, à personne qui voit, avec une petite position pas trop mal quand même. Je veux dire, si on est un peu visionnaire, on peut demander, on peut voir plus haut, plus loin, plus grand. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Je veux retrouver la vue. Oh, Bartimée. Bartimée, sois un peu plus audacieux. Je veux retrouver la vue. Alors, il retrouve la vue. Mais vous savez quoi ? Vous savez ce que ce récit a de particulier ? La première guérison d'aveugle est étonnante parce qu'elle se fait en deux fois. Je ne vous ai pas encore dit pourquoi. La deuxième guérison, elle est cruciale dans l'évangile de Marc, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le dernier miracle que Jésus fait, à part qu'il va maudire le figuier au chapitre 11. C'est le dernier miracle que Jésus fait. Dans toute la liste de miracles, c'est celui-là que Marc choisit de raconter. Là, et il ne va rien dire d'autre. Il veut qu'on le sache. Ce miracle a eu lieu et il faut qu'on l'entende, il faut qu'on le lise. Et ensuite, il est vraiment crucial parce que quand vous relirez Marc, puisque je vous l'ai dit, vous le relirez, vous vous rendrez compte que la seule personne à bénéficier d'un miracle de Jésus dont vous et moi nous connaissons le nom, c'est lui. Combien de personnes ont été guéries ? Mais la fille de Jaïrus, elle s'appelle comment ? La femme qui avait l'hémorragie, chapitre 5, elle s'appelle comment ? Celui dont que Jésus a délivré dans la synagogue au chapitre 1, à partir du verset 21, il s'appelle comment ? Et juste après, au verset 41, chapitre 1, celui que Jésus a guéri de sa lèpre, il s'appelle comment ? Mais lui, on connaît son nom. Et on connaît même la signification de son nom. Il s'appelle Bartimée, ce qui signifie fils, Bar, de Timée. Pourquoi ? L'hypothèse qu'on fait en général, c'est que dans Marc, dans son évangile, l'exemple même du disciple, c'est lui. L'exemple même du disciple, c'est lui. Celui qui était aveugle, qui s'est laissé guérir par Jésus et qui ne s'est pas contenté de repartir quelque part, mais qui s'est mis en marche avec Jésus, alors même que Jésus lui dit « Va !» Comme nous, il nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. D'entre toutes les nations, faites des disciples. » Le « Allez » que nous avons entendu est un « Va » que lui entend. Mais il comprend bien, manifestement, que ce « va » n'est pas un « éloigne-toi de moi ». Au contraire, ce « va » l'amène à suivre Jésus sur le chemin. C'est très concret. Sur ce chemin, il y a 12 personnes qui suivent Jésus. Et qui suivent Jésus depuis maintenant presque 3 ans. Parce qu'après, on arrive à Jérusalem et ça y est, on est dans les derniers temps de la vie de Jésus sur terre là. Donc certains le suivent depuis près de 3 ans. Ce sont les apôtres et puis quelques personnes dans les foules évidemment. Mais Quand on lit ce qui se passe au cœur même de l'inclusion, n'oubliez pas, ce qui est entre les deux parties est lié à ces deux récits-là. On se rend compte qu'en vérité, dans cette section centrale de Marc, les vrais aveugles, ce sont les disciples. Ce sont les disciples. Comment on le voit ? Parce qu'il y a un cycle dans l'évangile de Marc. Et ce cycle commence avec une question de Jésus. Qui dit-on que je suis ? Ah, certains disent que tu es un prophète, le prophète Élie, ceci, cela. Qui dites-vous que je suis ? Et là, Pierre donne une magnifique réponse. Tu es le Christ. Magnifique. Si je suis avec les disciples à ce moment-là, moi aussi je dis, oui, tu es le Christ, alléluia. Et là, je prends un chant. Notre Dieu, je suis heureux. C'est un temps de révélation. Magnifique. Oui, mais... Chapitre 8, verset 31. Que se passe-t-il ? Chapitre 8, verset 31 et 32, Jésus va dire quelque chose qui explique quel type de Messie il est. C'est-à-dire que quand Pierre dit tu es le Christ, il a une révélation qui lui vient de Dieu. C'est grâce à Matthieu qu'on le sait. Matthieu 16, c'est le Père qui le lui a révélé. Mais même ce qui lui a été révélé, il l'a enfermé dans la boîte de ses propres pensées. Alors, chapitre 8, verset 31 et 32, Jésus, dans sa grâce, essaye de le faire sortir de sa boîte et lui dit, le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem, il sera arrêté, il va être crucifié. Mais il annonce aussi, il va mourir, il va ressusciter le troisième jour. Mais Pierre est incapable de comprendre ça. Il est incapable même de l'entendre. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas accepter un Jésus qui lui dise autre chose que ce que lui pense. Alors il va dire à Jésus ce qui est quand même fort. Chapitre 8, verset 33. Pierre s'oppose frontalement à Jésus et à Dieu. N'en déplaise à Dieu, ça n'arrivera pas. Mais Pierre, mais qui es-tu ? Nous ne savons même pas de quoi tout à l'heure sera fait. Comment Pierre peut-il dire n'en déplaise à Dieu, ça n'arrivera pas ? Alors Jésus, chapitre 8, verset 34 à 38, apporte un correctif. Attention, chacun doit porter sa croix. Le disciple 2.0 plus 1.5, le disciple 2.0 est une personne qui dans sa vie réelle comprend qu'il faut porter sa croix. Il le faut. Ça fait partie du fait même d'être disciple. On ne peut pas être disciple sans ça. Bien sûr, la question c'est, concrètement, ce sera quoi ? Hein ? Alors Jésus apporte le correctif. Attention, Pierre, ce que tu dis là, ce sont des pensées toutes humaines. C'est la petite boîte. C'est une logique humaine qui ne peut pas accepter ce que Jésus est en train de dire là. Alors, on passe au chapitre 9. Chapitre 9, vous voyez, c'est facile à retenir, hein ? Même verset. Chapitre 9, versets 31 et 32, Jésus redit la même chose. Jésus a déjà dit quelque chose à Pierre qui a commencé à comprendre quelque chose de Jésus. Il a quand même dit « tu es le Christ », mais l'a enfermé aussitôt dans la boîte. Alors Jésus répète au chapitre 9, versets 31 et 32, « le Fils de l'homme », donc c'est-à-dire lui-même Jésus, c'est comme ça qu'il s'appelle, pour montrer qu'il est lui l'accomplissement de ce qu'on trouve dans le livre de Daniel au chapitre 7. Donc Jésus dit « le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem, il va être arrêté, il va mourir ». Et il va ressusciter le troisième jour. Et là, que se passe-t-il ? On continue le passage, on arrive au chapitre 9, versets 33 et 34, et on se rend compte que sur le chemin, alors que Jésus leur dit « je vais donner ma vie », sur le chemin, les uns et les autres se préoccupent de savoir qui est le plus grand. Aux yeux des gens, bien sûr. Qui est le plus grand parmi nous ? Jésus est en train de leur dire qu'il va souffrir. Et eux, sur le chemin, sont en train de se... C'est-à-dire c'est pas juste à un moment donné ponctuel, vous voyez. Pendant qu'ils sont en train de marcher sur le chemin qui amène Jésus de la Galilée vers la croix à Jérusalem, les disciples marchent et ils sont en train de se demander, c'est qui le plus grand ? Moi, je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi et certainement chacun a ses arguments. Ils sont à la recherche d'une gloire toute humaine. Une gloire selon le monde. ce que les gens diront d'eux. Ah ouais, eux, lui, c'est quelqu'un. Les critères du monde, les logiques humaines. Alors Jésus apporte un correctif. Et là, qu'est-ce que Jésus va dire? Attention, celui qui veut être le plus grand, le premier, il doit devenir le dernier. Vous voyez, c'est pas juste il doit accepter de devenir dernier, c'est il doit se faire le dernier. Il doit devenir le dernier. Prenons le cas d'une personne pauvre. Pour la personne pauvre de l'époque, ben, devenir la dernière, c'était pas trop difficile, on pourrait dire. Parce que dans la société, on la considérait déjà comme la dernière. Mais cette personne-là doit se voir comme dernière. Mais pas selon les critères du monde. Se voir comme dernière, c'est se rendre servante, serviteur. Développer ce genre de mentalité-là, ce genre de pensée-là. Et pour la personne qui était riche et qui entendait ça, vous imaginez un peu le choc quand Jésus dit, parce que la personne qui est riche, bien sûr, dans une société qui mettait en avant l'honneur et qui évitait absolument la honte, ben, être parmi les premiers, je veux dire, c'est ce que tout le monde aurait voulu. Tout le monde se battait pour ça, mais c'est comme aujourd'hui. Mes filles sont encore ados, mais l'année prochaine, c'est le bac pour la première. Ben, moi, j'aimerais bien qu'elle fasse une école où elle s'en sort bien après, c'est normal. Mais, Jésus dit, attention, le premier doit être le dernier. Ça veut dire que, imaginons que ma fille devienne riche. Comment est-ce qu'elle pourra quand même être la dernière? En comprenant que la question n'est pas de savoir finalement si on est riche ou pauvre. La question, c'est est-ce que vraiment nous avons développé une façon de penser qui est la façon de penser de serviteur et de servante. Je discutais avec un ami qui est dans la même église que moi, qui est, je ne vais pas dire sa position précise, mais il est très bien placé chez Groupama. Et donc, on discutait. Et il me disait comment la vie est. Il est très bien, et moi je l'admire ce frère. Il a une position vraiment extraordinaire quand même. Et en même temps, il a développé un tel état d'esprit de serviteur que non seulement quand on le fréquente, on ne peut pas savoir ce qu'il fait dans la vie, et qu'en plus, même dans sa manière d'être ce qu'il est dans sa boîte, il a développé des valeurs chrétiennes qui le rendent reconnaissable. Vous, c'est pas les choses, c'est pas de la provocation, hein, mais c'est une manière d'être, qui est une manière différente d'être. Je suis sûr que certains d'entre vous, nous sommes en Suisse, vous êtes bien placés, et j'ai bon espoir, je le crois, que vous êtes une démonstration d'une autre échelle de valeur, l'échelle de valeur du royaume des cieux dans ce monde. Alors on arrive au chapitre 10, Versets 32 à 34, Jésus redit la même chose. Jérusalem, souffrance, crucifixion, résurrection. Et là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent vers lui. Et malgré tout ce que Jésus a déjà dit, il les a déjà touchés et retouchés par son enseignement. Comme il a touché deux fois l'aveugle pour qu'il voie, il touche et retouche les disciples par son enseignement. Et au chapitre 10, versets 35 à 41, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de lui. Et qu'est-ce qui les intéresse encore? Les places VIP. Quand tu reviendras dans ta gloire, Seigneur, nous voudrions que tu fasses quelque chose pour nous. Vous voyez la question là, hein? C'est, Seigneur, nous voudrions que tu nous donnes un chèque, tu le signes, on s'occupe du montant. Nous voudrions que tu fasses quelque chose pour nous. Quand tu viendras dans ta gloire, nous voudrions être l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Les places VIP. Jésus leur répond, mais ça, c'est pas à vous. Ce sera donné à qui ça doit être donné. Mais avant de leur donner la réponse, Jésus leur a posé une question après leur question. Vous savez quelle est cette question? Vous vous souvenez de la question à Bartimée? La question de Jésus à Bartimée? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et il voulait juste voir. Juste voir. Et ensuite suivre Jésus. Alors Jésus dit aux disciples, que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et eux, ils disent, nous voudrions être l'un à droite, l'un à gauche. Et vous savez ce que le texte dit ? C'est que les autres disciples, quand ils ont entendu ça, ils se sont indignés. La question c'est, pourquoi ? Est-ce qu'ils se sont indignés ? Parce qu'ils se sont dit, mais quand même, mais qu'est-ce qu'ils sont matérialistes ? Le Seigneur parle de sa souffrance et vous parlez de droite et de gauche. Oh là là ! Ou bien, est-ce qu'ils sont aigris par le fait qu'ils ont été devancés et que les places VIP pourraient leur échapper ? J'ai l'impression que c'est plutôt cette deuxième solution. Parce que vous voyez, c'est difficile dans le monde de penser autrement que comme le monde pense. Mais si nous pensons comme le monde pense, l'Église devient comme le monde est. Si nous pensons égocentrique, l'Église devient égocentrique. Si nous pensons individualiste, l'Église devient individualiste. Si nous pensons seulement gloire, l'Église devient un mouvement qui ne cherche que ça. En fait, il y a ici quelque chose, moi, qui m'interpelle réellement. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que nous cherchons vraiment ? Et ce que nous cherchons vraiment, comment est-ce que nous le découvrons ? Nous le découvrons lorsque nous regardons dans quoi nous mettons le plus d'efforts. Alors comprenez bien, ici il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Ici, je crois que si vous êtes là, c'est que vous aimez la parole, vous aimez le Seigneur, comme moi-même. Nous aimons cette parole parce que nous croyons qu'elle nous aide à réfléchir autrement. Il y a quelque chose de noble dans les Écritures. Il y a quelque chose de vraiment humain et qui rend plus humain dans les Écritures. Mais encore faut-il que les Écritures nous transforment. Et si on regarde vraiment les Écritures, nous sommes obligés de nous demander réellement où nous mettons tous nos efforts. Parce que vous savez que là où sont vos efforts, là est votre trésor. Bien sûr, Jésus le dit autrement. Il dit que là où est votre trésor, là est votre cœur. En fait, la formulation de la phrase est intéressante parce qu'on pourrait la renverser. Là où est votre cœur, là est votre trésor. Ça revient au même. Et votre trésor, vous le voyez comment ? Parce que vous faites tout pour conserver votre trésor. Parce que vous faites tout pour mettre un peu plus. Ce n'est pas pour culpabiliser. C'est pour que nous ouvrions les yeux et que nous nous demandons, Seigneur, où est-ce que, en vérité, je mets mes efforts ? Alors les disciples vont arriver finalement au bout de ce cycle. Et au bout de ce cycle, voici ce que Jésus va dire, qui met fin à ce cycle. Ils n'ont pas encore compris à ce moment-là, mais voici ce qui met fin au cycle. C'est le chapitre 10, verset 45. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et d'un seul coup, les disciples qui étaient dans une quête de gloire à tout prix, parce qu'ils étaient enfermés dans leur culture. D'un seul coup, ils entendent que le maître qu'ils suivent depuis 3 ans est en train de leur dire qu'il est venu pour être donné comme rançon. C'est pas hyper glorieux. Et pourtant, ça, c'est la gloire même. Pourquoi ? Parce que l'humilité à laquelle nous consentons aujourd'hui précède la gloire que nous connaîtrons avec le Seigneur. Et cette gloire que nous connaîtrons avec le Seigneur, c'est d'être semblable à lui, d'être dans sa présence, de pouvoir nous présenter devant lui sans avoir à rougir, en lui disant « J'ai été pauvre, je t'ai suivi. J'ai été riche, je t'ai suivi. J'ai été pauvre, je t'ai aimé. J'ai bien travaillé, Seigneur, pour te faire plaisir, et j'ai eu promotion sur promotion, et je t'ai suivi. » Et Seigneur, j'ai aimé ton Église. Vous savez quoi ? Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Non, il y a d'autres choses de plus belles, peut-être. On peut les mettre ex aequo. Mais je trouve que c'est beau, l'Église. Alors là, par contre, oui, il n'y a rien de plus beau que l'Église. Mais attention, ce n'est pas une parole facile que je vous donne là. J'abandonne ce que j'allais vous dire avant. C'est moins important. Ça, c'est plus important. Il n'y a rien de plus beau que l'Église, quand elle est Église. Et vous savez ce que j'aime dans l'Église ? C'est que c'est un lieu où il y a des différences qui potentiellement peuvent disparaître. Des différences établies par ce monde, par notre culture, et qui peuvent, dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres, disparaître. Et quand ces choses-là se font, alors l'Église est en train de vivre la lettre aux Éphésiens. Que dit la lettre aux Éphésiens ? Et c'est sur ça que je veux terminer en vérité, même si je reviendrai un peu à Marc. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, je vais commencer au chapitre 1. Chapitre 1, probablement au verset 6, probablement au verset 12, 14, vous relirez. Chapitre 1, verset 3, 14, de toutes les façons, vous verrez. Tout ce que Dieu a fait, Père, Fils, Esprit, c'est pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Quelle grâce ? Celle de nous avoir libérés. Libérés du péché ? Oui, mais le péché, très concrètement, c'est libérer de la petite boîte dans laquelle nous fonctionnons jour après jour et qui peut ne pas être ajustée à ce qu'est notre Seigneur que nous aimons. Vous allez ensuite au chapitre 2, versets 7 et suivants. Chapitre 2 d'Éphésiens, versets 7 et suivants. Et là, vous tombez sur quoi ? Tout ce que le Seigneur a fait, il l'a fait pour démontrer la richesse de sa grâce dans les âges à venir, dans tous les siècles. C'est ce qu'est l'Église, c'est vous et moi. Hein ? Et quand on arrive au chapitre 3, verset 10, on arrive à une déclaration magnifique. Au chapitre 3, c'est le seul passage, vers le verset 19 et 20, c'est le seul passage où l'Église et le Christ sont mis presque au même niveau. À Dieu soit la gloire, dans l'Église et dans le Christ. Bah alors que Dieu dise à Dieu la gloire dans le Christ, oui. Mais là, c'est à Dieu la gloire dans le Christ, dans l'Église et dans le Christ. Pourquoi ? Parce qu'au chapitre 3, verset 10, il y a quelque chose de crucial. L'Église, lorsqu'elle fait tomber les distinctions, qu'elle s'implique dans cette vision du Seigneur, elle devient une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu devant les êtres célestes. Je trouve ça incroyable. On pourrait avoir une vision de l'Église comme une association au niveau purement horizontal. Et puis d'un seul coup, Paul nous arrache à ça, pour que comme les disciples sur le chemin, nous sortions de la petite boîte et que nous réalisions que l'Église est censée être, c'est ça sa vocation, une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais ça, ce n'est possible qu'avec les chapitres 4, 5, 6 de l'Épître aux Éphésiens. Et ça, c'est impliquez-vous les uns avec les autres. Soyez créatifs dans votre milieu. Soyez créatifs pour trouver une manière de vivre les valeurs de l'Évangile là où vous êtes. Ce n'est pas abandonner votre situation simple. C'est là où vous êtes, soyez créatifs pour que le vieil homme meure et que l'homme nouveau, Christ, vive. Et je crois que lorsque l'Église vit ça, alors l'Église est Église. Plus de différence. Plus de distinctions, non pas qu'elles aient disparu dans la réalité sociale, mais elles disparaissent dans l'Église, parce que l'Église est plus que le monde dans lequel nous vivons. Je prie, bien-aimés, que le Seigneur, alors qu'il nous fait marcher sur le chemin, nous aide à accepter, parce qu'il y a une part qui vient de nous, à accepter d'être davantage comme il veut que nous soyons. Et ce que je vois là, c'est chercher à être serviteurs les uns des autres, très concrètement. Par un WhatsApp envoyé à ceux qui souffrent, par une présence pour prier pour ceux qui ont besoin de prière, une implication dans les différents services de l'Assemblée, par un rayonnement dans votre sphère professionnelle pour le Christ. Que le Seigneur nous bénisse.